On se met debout pour l'évangile de ce troisième dimanche de carême, tiré de Saint Luc, chapitre 11. En ce temps-là, Jésus chassait un démon, c'était un démon de mutisme, un démon muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules furent de l'admiration, mais il s'en trouva quelques-uns pour dire, c'est par Belzébub, prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres pour le tenter lui demandèrent un signe du ciel. Lui, voyant ce qu'il pensait, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, la maison tombera sur la maison. Que si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzébub que je chasse les démons, si c'est par Belzébub que je chasse les démons, vos fils à vous, par qui les chassent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Si, tout au contraire, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est qu'assurément le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Lorsque le fort, avec ses armes, garde l'entrée de sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si celui-là survient qui est plus fort que lui, et s'il le bat, alors il lui enlèvera toutes les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et distribuera ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi disciples. Lorsque l'esprit immonde est sorti de l'homme, il va par les lieux sans eau, cherchant du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je reviendrai dans ma maison ». Celle d'où je suis sorti, revenant, il la trouve alors balayée et ornée. Il va prendre avec lui alors sept autres esprits plus pervers que lui. Ils y entrent et ils font leur demeure. Ils y font leur demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Or il arriva, comme il prononçait ces paroles, qu'une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Bienheureux, le sein qui vous a porté, les mamelles que vous avez sucées ». Il lui dit de répliquer, oui, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Veuillez vous asseoir. Attention, une petite modification liturgique. Donc dimanche prochain, en principe, c'était la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Mais comme ça tombe à dimanche de carême, le dimanche de carême est privilégié par rapport à la fête de Saint-Joseph. Donc dans un cas comme ça, la fête de Saint-Joseph est reportée au premier jour libre. Donc cette année, la fête de Saint-Joseph sera célébrée le lundi 20 mars. Cours ce mercredi, comme tous les mercredis à 19h. Attention pour les retraites, donc j'ai reçu 4 ou 5 inscriptions encore cette semaine. Donc il n'y a plus que 5 places. En avril, une place, puis première retraite de septembre, il y a encore une ou deux places, et 2 ou 3 places en octobre. Je recommande à vos prières le papa de Laura, donc Laura Deschats, Justin et Laura, on peut plus venir là parce qu'ils sont justement, monsieur le papa de Laura est très malade à l'hôpital, en train de mourir, donc priez pour lui, surtout qu'il n'est pas catholique, donc il a besoin de prière. Vraiment priez pour le papa d'une autre de nos fidèles qui vient à la messe à Cahors, qui est également gravement malade. Et aussi pour le repos de l'âme de monsieur Louis-Aubert Rémy, qui est un catholique de tradition de la toute première heure, et qui a beaucoup fait pour faire connaître surtout les grands textes des anti-libéraux du 19e siècle, surtout du début du 20e, Monseigneur Gault, Monseigneur Join, Monseigneur de Ségur, l'abbé Barbier, tous ces textes-là, il avait une bibliothèque phénoménale, et c'est lui qui a pu mettre à disposition, entre autres des éditions Saint-Rémy, ces textes qui avaient complètement disparu. Donc priez pour le repos de son âme. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, attention, donc messe tous les jours cette semaine, mais demain, je dis la messe exceptionnellement à 8h30, sinon les autres jours à 10h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de vous commenter un petit peu l'évangile du jour, je voudrais revenir sur une fête très importante de la semaine dernière. Je ne vais pas laisser passer la fête de Saint Thomas d'Aquin. Le 7 mars, c'est la fête de Saint Thomas. On ne comprend pas toujours l'importance de Saint Thomas d'Aquin dans l'Église catholique. Sa philosophie et sa théologie sont la philosophie et la théologie de l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que lorsqu'il a terminé un de ses plus beaux traités de la Somme théologique, le traité sur la Sainte Trinité, Dieu lui est apparu à la fin de ce traité. Il lui a dit, Thomas, tu as bien parlé de moi. Vous vous rendez compte? Thomas, tu as bien parlé de moi. Je crois que c'est unique dans l'histoire de l'Église. Donc c'est pour ça que la théologie et la philosophie de saint Thomas sont certainement le grand moyen pour protéger nos intelligences. N'oubliez pas que actuellement le démon travaille d'abord par les intelligences, parce que le poisson pourrit d'abord par la tête. Donc ce sont les intelligences des hommes modernes qui sont plus capables d'atteindre le vrai pour lequel pourtant elles ont été créées. L'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Et le démon a tellement bricolé les intelligences modernes qu'elles ne sont plus capables d'atteindre le vrai. Plus exactement, plus capables de savoir où est le vrai. Et ensuite, il faut utiliser la volonté pour atteindre le vrai. Mais si notre intelligence est tellement pourrie, dans son essence même, je dirais, qu'elle n'est plus capable de savoir où est le vrai, comment voulez-vous l'atteindre? Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. À tel point que lorsque Saint Pie X a voulu lutter contre le modernisme, c'est lui qui a donné comme un des moyens de lutter contre les modernismes le retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Parce qu'au cours de l'histoire de l'Église, la théologie et la philosophie de saint Thomas d'Aquin s'étaient un peu perdues, malheureusement. Et c'est le pape Léon XIII qui a remis ça en honneur, puis le pape Saint Pie X. Donc la meilleure des choses, la première des choses pour réapprendre à penser droit, je vous l'ai souvent dit, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Réapprendre à penser droit pour utiliser normalement les puissances de notre âme, surtout l'intelligence et la volonté. Pour réapprendre à penser droit, il faut s'incorporer et s'assimiler saint Thomas d'Aquin, ce qui n'est pas une chose facile. Oui. Donc je conseille à tous ceux qui ont un petit peu de temps, qui connaissent déjà bien leur catéchisme, de travailler. J'ai mis sur le site dame-marie.net un cours complet sur saint Thomas d'Aquin. Il m'a pris un temps énorme de préparation, c'est fini maintenant depuis assez longtemps. Donc vous avez un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas qui est son œuvre principale. Donc travaillez, obligez-vous à travailler pour ne pas laisser le démon du libéralisme, le démon du modernisme, venir et grignoter vos intelligences. C'est comme ça qu'il travaille, il vient grignoter l'intelligence pour qu'on puisse plus savoir où est le vrai. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Une deuxième raison pour laquelle la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin sont extrêmement importantes pour les catholiques d'aujourd'hui, c'est que le monde moderne vit dans un monde virtuel. On est déconnecté du réel, surtout par les écrans. La télévision, Internet, tous les écrans qui sont partout aujourd'hui, surtout chez les jeunes, déconnectent les intelligences du réel. Ce qui fait que les intelligences modernes, pour la plupart d'entre elles, vivent totalement déconnectées du réel. Elles vivent dans un monde virtuel, un monde qui n'existe pas. Ce monde virtuel, c'est ce qu'on appelle le monde de l'idéalisme. Donc la fausse philosophie, si vous voyez, qui est derrière cette fausse façon de concevoir les choses, cette incapacité de l'homme moderne de savoir où est le vrai, ça vient des philosophies idéalistes. Le père de la philosophie idéaliste, c'est Kant, Emmanuel Kant, qui est mort, je crois, autour des années 1804. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, lui, et au contraire, le père de la philosophie réaliste. Donc la meilleure façon de réapprendre à penser droit, pour se couper justement d'un monde artificiel dans lequel on veut vivre, qui en fait n'existe pas, il faut reprendre la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, c'est la philosophie qui s'oppose à la philosophie idéaliste. C'est pour ça que saint Thomas est le père de l'objectivité de la connaissance. C'est lui qui, de même que Kant et surtout les philosophes allemands qui ont suivi Kant, de Fichte, Schelling, Hegel, etc., eh bien, sont ceux qui ont mis le virus, si vous voulez, du subjectivisme dans les esprits modernes. C'est-à-dire que l'esprit moderne fait sa propre vérité, c'est pour ça qu'ils vivent dans un monde virtuel qui n'existe pas. Au contraire, saint Thomas d'Aquin, avec sa théologie, avec sa philosophie, nous fait vivre dans un monde réel, le monde de l'objectivité de la connaissance. Donc, en suivant les fausses philosophies idéalistes, derrière Kant, on est incapable de connaître le vrai, donc incapable de le posséder. Si au contraire, on est formé par saint Thomas d'Aquin, eh bien, à ce moment-là, on a la possibilité de protéger, de gouverner, de de soigner notre intelligence et donc d'atteindre le vrai par la volonté. C'est pour ça qu'au séminaire, un séminaire école, là où j'étais formé, au temps de Mgr Lefebvre, donc on avait cette formation théologique qui est extrêmement importante. Alors encore une fois, il ne faut pas croire que cette formation théologique est exclusivement réservée aux prêtres. Certes, les prêtres, eux, doivent la connaître impérativement. Si les prêtres modernes ont perdu la foi, en grande partie, c'est parce qu'ils ont perdu saint Thomas d'Aquin, faut pas se faire d'illusions. Eh bien, pour ceux qui ont le temps, travaillez. Et obligez-vous à travailler. Je sais bien que c'est un peu compliqué, mais le bon Dieu vous a donné une intelligence, c'est à vous de l'utiliser. Malheur à celui qui refuse d'utiliser son intelligence. Une intelligence qui n'est pas utilisée, eh bien, c'est une intelligence qui va dépérir. C'est comme un rosier, imaginez un rosier en plein été où la rose n'est plus. Eh bien, il meurt. Mais c'est pareil. Vous voyez ? Et Saint Pilice allait jusqu'à dire, Mgr Lefebvre nous a expliqué ça aussi, je ne sais pas combien de fois, que quelqu'un qui est formé avec saint Thomas d'Aquin, en matière philosophique, en matière théologique, est armé, je dirais, presque surnaturellement parlant, armé contre le modernisme. Vous voyez ? D'où l'importance de toutes ces choses-là. Et donc, il faut comprendre l'importance de cette fête de saint Thomas d'Aquin. Et ce n'est pas pour rien. C'est un détail, mais c'est un détail qui est très important. Qui est le patron des écoles chrétiennes, saint Thomas. L'Église a voulu donner saint Thomas d'Aquin comme patron des écoles catholiques. Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Justement parce qu'il est le patron qui nous aide à réutiliser normalement notre intelligence. Et Dieu sait si dans une école catholique, le but des professeurs... Et c'est d'apprendre aux enfants qui leur sont confiés de réapprendre, d'apprendre à utiliser correctement leur intelligence. Et alors, c'est pas facile, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour accepter tout ce travail. Alors, ne vous découragez pas, mais priez saint Thomas d'Aquin. Je voudrais quand même dire quelques mots sur l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un évangile très riche, dont j'ai pas le temps de tout expliquer. Mais il y a certains points qui sont, à mon avis, très importants. Qu'est-ce que nous dit Saint-Luc ? Il nous dit que ce n'est pas celui qui écoute la parole du bon Dieu. Il faut écouter la parole du bon Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? À quoi correspond la première partie ? Écouter la parole de Dieu. Mais écouter la parole de Dieu correspond à la vertu de foi. J'écoute la parole de Dieu, je m'imprègne du catéchisme traditionnel de l'Église catholique pour nourrir ma foi. La foi, c'est comme l'intelligence. La foi travaille avec l'intelligence. Bon. Et si la foi n'est pas nourrie, qu'est-ce qui se passe ? Elle va s'étioler. Regardez ce qui s'est passé en France. Regardez ce qui s'est passé en France, surtout autour des années 60. Les gens ont arrêté d'alimenter leur foi. Et ils l'ont perdu. Donc, écouter la parole de Dieu, c'est la vertu de foi. Mais la vertu de foi ne suffit pas. Ce n'est pas la foi qui mène au ciel. La foi ne suffit pas pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut rajouter à la foi la vertu théologale de charité. C'est quoi la vertu théologale de charité ? C'est ça qu'il y a deux parties. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu, foi, et qui la met en pratique, charité. Donc la charité, la vertu théologale, centrée sur Dieu, qui nous fait pratiquer la foi. Et comment pratique-t-on la foi catholique ? On pratique la foi catholique en accomplissant la loi de Dieu, qui est résumée dans les 10 commandements. Donc vous pouvez avoir toute la foi que vous voulez, si vous vivez dans le péché mortel, parce que vous ne suivez pas la loi du bon Dieu, eh bien votre foi ne vaut rien. Et c'est pour ça, ça c'est l'enseignement justement de saint Thomas d'Aquin, que la charité va vivifier la foi. Une foi plus la charité, c'est ce qu'on appelle la foi formée. La foi formée, de même que l'âme est la forme du corps, de même la vertu théologale de charité va donner une vie surnaturelle à la foi. Sinon la foi s'étiole, finit par mourir. Et ce sont des choses extrêmement importantes à comprendre. Mais vous pouvez connaître tout votre catéchisme par cœur. Et si vous ne vivez pas en état de grâce, à quoi ça vous sert ? Et on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est la façon de procéder du démon. Que fait le démon ? Le démon pousse Même ceux qui ont encore la foi catholique, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns, Dieu merci, il les pousse à vivre dans le péché. Et les faisant vivre dans le péché, il enlève de cette foi la forme de la foi, la forme surnaturelle de la foi. Donc il va enlever, le démon va réussir à enlever de ceux qui ont la foi, si on ne fait pas attention, ce qui fait vivre cette foi. Et ce qui fait vivre cette foi, c'est la vertu de charité. Donc vous pouvez connaître tout votre catéchisme par cœur. Ce n'est pas ça qui va vous mener au ciel. Hein. Quelle est la première question que le bon Dieu va nous poser le jour où on meurt? Le jour où nous passons devant lui, ben, il va nous poser cette question. Avons-nous la vertu de charité? Rappelez-vous Saint Paul. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit, une cloche qui retentit. Et il va jusqu'à dire, même si je donne ma vie pour sauver les autres, même si je nourris tous les pauvres de la planète, si je n'ai pas la charité ne me sert de rien. Vous pouvez accepter tous les pauvres de la planète, si vous ne vivez pas en état de grâce, ça vous sert à quoi? À rien. Absolument à rien. Parce que le jour de notre mort, le bon Dieu ne va pas nous demander combien de pauvres on a nourris. Il va nous poser la question de savoir si nous avons vécu dans la charité. D'où l'importance de cette phrase. Et ensuite, notre Seigneur, dans son évangile, va enfoncer le clou. Celui qui n'est pas avec moi, il disperse. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et donc, il faut être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pas simplement de temps en temps. Ah mais moi, monsieur l'abbé, je suis avec notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches de 10h à 11h30, même jusqu'à midi moins de quart si l'abbé Lafitte prêche un peu trop longtemps. Ça vous sert à quoi, ça? Est-ce qu'on juge les catholiques sur la façon de se comporter pendant la messe? C'est facile de bien se comporter pendant la messe. Il n'y a pas grand monde qui vous casse les pieds pendant la messe. Bon, l'abbé Lafitte peut être un peu long en sermon, c'est vrai. C'est bon pour la vertu de patience. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si vous voulez, considérer, comparons la Sainte Messe, j'aime bien utiliser cette comparaison très moderne, à station-service. Pendant que vous êtes à la station-service, votre voiture, elle n'avance pas. Mais vous remplissez le réservoir de carburant. C'est ça la messe. Mais la Sainte Messe doit remplir notre âme de carburant spirituel pour que nous puissions vivre en état de grâce pendant toute la semaine qui suit. Donc, pour juger un catholique, on ne juge pas un catholique sur sa façon d'assister à la messe le dimanche. On juge un catholique sur sa façon de se comporter pendant la semaine. Il y avait chez les Américains un petit proverbe comme ça. Monsieur Wilson ne manque jamais la messe du dimanche. Mais Monsieur Wilson tombe en enfer parce qu'il fait du lundi au samedi. Et c'est ça le drame. Parce que si je connais ma foi par cœur, mais que je n'ai pas la charité, eh bien, il manque tout. Donc, il faut demander la grâce au bon Dieu de pouvoir vivre dans la charité. Et pour revenir aux écoles catholiques, le problème des écoles catholiques, pour moi, c'est ça. C'est facile pour les... Quand j'étais professeur en école catholique, je disais souvent ça à mes élèves. C'est facile d'être catholique à l'école catholique. Parce que vous avez les prêtres sur le dos toute la journée, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas là qu'on juge un catholique. On juge un catholique sur la façon de vous comporter quand vous rentrez à la maison. Donc c'est quand vous rentrez à la maison qu'on peut juger si vous avez la foi catholique jointe à la charité ou vous n'avez que la foi sans la charité. J'ai connu malheureusement des tas d'élèves. Eh bien, quand ils avaient 15-16 ans, eh bien, dès qu'ils rentraient chez eux, on avait l'impression qu'ils enlevaient une espèce de masque qu'ils avaient sur le corps, sur l'âme, et puis ils mettaient ça à la poubelle. Ah, enfin, on est libre de faire ce qu'ils veulent. Ils faisaient n'importe quoi. Ben, un résultat des courses, eh bien, ces jeunes, ils sont où maintenant? Ces jeunes qui avaient 15-16 ans, quand j'enseignais il y a 20 ou 30 ans, eh bien, la plupart d'entre eux ont perdu leur foi aujourd'hui. Parce que, justement, ils n'avaient pas la protection de la vertu de charité. Alors, en général, ils s'en tirent en disant, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut quand même pas être catholique toute la journée.
Comment ça?
Mais c'est précisément ce que vous demande le bon Dieu. Mais monsieur l'abbé, je suis catholique à 95%, c'est déjà pas mal. C'est mieux que d'être catholique à 80% quand même. Oui, mais ça sert à quoi d'être catholique à 95% si c'est pour 5% de la doctrine catholique, vous n'êtes pas catholique. Si vous dites au mon Dieu, vous avez raison sur tout, sauf sur un point. Donc j'accepte les 100 dogmes de la foi catholique, par exemple, mais il y en a un que je ne veux pas. Vous voyez, c'est pas mauvais. Je suis catholique à 99%. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le bon Dieu? Il ne va pas nous féliciter pour les 99% parce qu'il y a 1% pour lequel on dit au bon Dieu, vous vous trompez là-dessus. Parfois, des jeunes qui sont comme ça. Monsieur l'abbé, il y a 10 commandements. Moi, j'en suis 8, c'est déjà pas mal. C'est mieux que d'en suivre aucun. Ça sert à quoi de suivre les commandements, sauf 2? En général, c'est 6e et 9e. Ça sert à quoi? C'est pour ça que le bon Dieu nous dit, celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Donc il faut demander cette grâce d'être catholique à 100%. Et si je nie un seul point de la foi catholique, je ne suis pas un mauvais catholique, je ne suis plus catholique, je deviens hérétique. Regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Vous voyez, et ça, je pense que c'est à la racine de tous nos problèmes actuels. C'est la racine de tous nos problèmes actuels parce que les jeunes, surtout de ma génération, eh bien autour des années 60, ils pensaient comme des catholiques. Ils connaissaient la foi catholique, ils connaissaient tout leur catéchisme, mais ils ne vivaient pas comme des catholiques. Et si vous pensez comme un catholique, mais vous ne vivez pas comme un catholique, qu'est-ce qui va se passer? Si vous pensez comme un catholique, mais vous ne vivez pas comme un catholique, un jour, vous penserez comme un non-catholique. Si vous pensez comme un catholique, mais que vous vivez comme un protestant, un jour, vous penserez comme un protestant. Si vous pensez comme une catholique, mais vous habillez comme une fille de joie, un jour, vous penserez comme une fille de joie. Et c'est comme ça pour tout. Si je pense comme un catholique, mais j'écoute de la musique de sauvage, eh bien, quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? La vie de ma foi. Il me manque la forme de la foi, à savoir la vertu de charité. Et c'est pour ça que les catholiques, l'immense majorité des catholiques, des jeunes catholiques de ma génération, des années 60, ils ont tous perdu la foi aujourd'hui, pratiquement tous. Parce que justement, il faisait une distinction entre la foi et la pratique de la foi. La foi sans la pratique de la foi, ça vaut plus rien. Plus rien. Rappelez-vous Saint Paul encore une fois. Si vous trouvez que je suis trop sévère là-dessus, relisez 1 Épître aux Corinthiens, Saint Paul, chapitre 13. La grande hymne à la charité. Alors on a des gens comme ça, « Ah, mais monsieur l'abbé, moi j'ai nourri plein de pauvres. » D'accord? Et vous vivez avec la femme du voisin. « Ah oui, mais je nourris les pauvres. » Oui, mais vous vivez avec la femme du voisin. Ça vous amène à quoi, ça? « Ah, mais j'ai fait des tas de choses extraordinaires pour Dieu. » Oui, mais il vous manque l'essentiel. Vous avez la foi, oui, je crois à tout le catéchisme. Il vous manque la pratique de la foi. Il vous manque la pratique de la foi, qui est la vertu théologale de charité. C'est quoi la vertu théologale de charité? Nourrir tous les pauvres de la planète? Non. La vertu théologale de charité, c'est la vie en nous de la grâce sanctifiante. L'habitation en nous de la Sainte Trinité. Une définition que nous donnait Mgr Lefebvre de la charité. L'habitation en soi de la Sainte Trinité. Je vis avec la Sainte Trinité en moi si je suis en état de grâce. Quelle est la première condition pour être en état de grâce? Première condition pour être en état de grâce, c'est de suivre les commandements. Donc si je connais toute la foi catholique par cœur, dans tous les sens, mais que je ne vis pas en état de grâce parce que je me moque des commandements du bon Dieu, eh bien il me manque l'essentiel. Donc je connais la foi catholique par cœur, mais je vis avec la femme du prochain, ça vaut rien. Je vis avec les, je connais la foi catholique par cœur, tout le catéchisme par cœur, mais j'ai volé le voisin, je ne veux pas restituer, ça ne vaut plus rien. Je connais la foi catholique par cœur, mais je ne veux pas pardonner au voisin, je garde une rancœur dans mon cœur et je refuse de pardonner alors que je devrais le faire, ça ne vaut plus rien. Il manque l'essentiel. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va insister là-dessus. Et il insiste lourdement. Il a parlé du démon muet. C'est quoi un démon muet? Un démon muet, c'est le démon qui nous empêche d'ouvrir la bouche pour faire rentrer la charité en nous. Et tous les pères de l'Église interprètent ce démon muet comme étant le démon qui nous empêche de dire ce qu'il faut dire au confessionnal. Parce que je casse soigneusement un détail. Parce que je ne dis pas quelque chose que je dois dire. Ou je donne un péché de façon tellement générale que le prêtre ne comprend plus rien. C'est pas ce que vous avez fait. Vous voyez, beaucoup de gens se donnent à cause de ça. Parce que soigneusement, ils cachent quelque chose. Parce qu'ils gardent, par exemple, une occasion prochaine volontaire de péché grave. C'est comme ça que le démon travaille. Il nous aveugle l'intelligence pour nous maintenir dans le péché, parce que je ne coupe pas avec des occasions prochaines volontaires de péché. Vous voyez comme c'est important, toutes ces choses sont tellement importantes. Et notre Seigneur Jésus-Christ, donc, explique bien cela. Donc ce démon muet, c'est le démon qui nous empêche d'ouvrir la bouche de notre âme pour faire des bonnes confessions. Et notre Seigneur Jésus-Christ enfonce encore un clou supplémentaire en disant, si le démon s'en va de votre âme, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à y revenir avec sept démons pires que lui. Et les pères de l'Église se sont posés la question de savoir qui sont ces sept démons. Mais évidemment, les sept péchés capitaux, mais pas simplement ça. C'est aussi les démons qui vont contre chacune des sept vertus essentielles de la foi catholique. Foi, espérance, charité, les trois vertus théologales. Prudence, justice, force, tempérance, les quatre vertus cardinales. Mais il y a un démon contre la foi, un démon contre la charité, un démon contre l'espérance, un démon contre la prudence, un démon contre la justice, un démon contre la force, un démon contre la tempérance. Le démon, il s'en fiche complètement qu'il y en ait un ou sept qui rentrent. Du moins qu'il y en a un, ça suffit. Parce que dès qu'il y en a un qui est rentré, qu'on ne pratique plus une de ses vertus essentielles, on ouvre la porte et tous les autres démons peuvent revenir. C'est exactement ce qu'explique notre Seigneur dans l'Évangile. Oui, mais bien, chers frères, comme toutes ces choses sont importantes, il faut demander pendant ce temps du carême la grâce de la conversion personnelle. Ce que je vous dis, ce n'est pas simplement pour vous, c'est pour moi aussi, bien entendu. Vivre dans l'état de grâce. Même si on a du mal, même si on retombe tout le temps, le bon Dieu, justement, nous a donné le sacrement de pénitence, c'est pas pour rien. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Saint-Pierre. Il faut pardonner 70 fois cette fois. 70 fois cette fois. Donc demandons, eh bien, chers frères, à la très sainte Vierge Marie. Demandons à la très sainte Vierge Marie, justement, cette grâce de la conversion. Cette grâce de la conversion. La très sainte Vierge Marie, elle s'est sanctifiée comment ? On sanctifie d'abord par la pratique de son devoir d'état de chaque jour. Pratique de son devoir d'état de chaque jour. Ah, oh, mais la Sainte Vierge, c'était facile, vous comprenez, monsieur l'abbé, elle n'avait pas de tentation. Oui, c'est vrai qu'elle n'avait pas de tentation. Elle est l'Immaculée Conception. Mais je vous fais remarquer, vous n'aurez peut-être pas oublié qu'elle est au pied de la croix aussi. Elle est au pied de la croix. Et c'est elle qui a reçu le corps sanglant, exsangue de son fils, au moment de la descente de la croix. Donc il faut demander à la très sainte Vierge Marie l'amour de la charité. Et ne jamais oublier que la charité est plantée dans notre cœur par la croix. Parce que la croix, c'est la charité. C'est pour cela que tous les pères de l'Église expliquent que la plus belle forme d'expression de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, c'est l'ouverture de son Sacré-Cœur. Après la mort, sur la croix. Mais vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, ça c'était il y a 2000 ans. Eh bien, tous les jours, la messe est offerte pour cette raison. Le Saint-Sacrifice de la messe est offert comme renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire pour que nous puissions nous abreuver à la charité de notre Seigneur. Quand le prêtre élève le calice, c'est le même sang qui est sorti du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Le même corps que la très sainte Vierge Mère Marie a emmailloté de l'ange le jour de la naissance de notre Seigneur. Le même corps qu'elle a reçu sur le suaire au moment de la descente de la croix. Donc demandons au bon Dieu cette grâce d'aimer la Sainte Messe. Demandons au Dieu la grâce de nous vivifier, de nous alimenter spirituellement parlant par la Sainte Messe. Donc quand on arrive ici dans cette chapelle, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, dimanche dernier, il faut dire vraiment cette parole de Saint-Pierre, « Seigneur, il est bon pour moi d'être ici. Il est bon pour moi. Aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi, très Sainte Vierge Marie, à purifier ce qu'il faut purifier. J'ai encore de la rancœur contre quelqu'un, j'ai de la haine contre quelqu'un, j'ai encore des attaches au péché, j'ai encore telle chose que je dois couper dans ma vie, j'y arrive pas, aidez-moi. » La Sainte Vierge va vous aider. Non, elle va tous nous aider parce qu'elle aime le pécheur repentant. Et que le rôle de la Sainte Vierge Marie, c'est de mettre la repentance dans notre âme et d'amener le pécheur repentant au pied de la croix. Pour ça que le Christ, avant de mourir, a dit, « Fils, voici votre mère. » Il nous l'a donné pour devenir notre mère. Alors, mes bien chers frères, prenons des forces pendant la Sainte Messe pour que justement nous soyons capables de rester en état de grâce. Encore une fois, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la pratique par la foi et la vertu de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.